Hello amis auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour un troisième épisode de notre podcast consacré à l'orthographe. Aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser aux notions de grammaire qu'il faut connaître pour maîtriser ensuite les accords de la langue. On analysera ces accords grammaticaux dans le détail lors du dernier épisode du podcast. Alors, j'avais prévu que cet épisode soit consacré à la fois à la nature des mots et aux fonctions que les groupes de mots peuvent avoir dans la phrase. Mais notre capacité d'attention étant limitée, surtout concernant un sujet un peu aride, j'ai pensé qu'il valait mieux aborder la notion de fonction dans un autre épisode qui suivra celui-ci. On va donc se concentrer aujourd'hui sur les différentes classes grammaticales. Je vous conseille, comme à chaque fois, de vous installer confortablement dans un endroit calme pour mieux profiter de l'écoute. Allez, c'est parti! C'est quoi la nature d'un mot? La nature d'un mot, ou sa classe grammaticale, c'est son identité. S'agit-il d'un nom, d'un verbe, d'un adjectif, d'autre chose? Cette identité, elle est indiquée dans le dictionnaire sous forme d'une abréviation à côté de la définition du mot. Il existe 10 classes de mots différentes. Il y a 5 classes de mots variables qui vont s'accorder en genre et en nombre dans une phrase avec d'autres mots et 5 classes de mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne s'accordent pas. Sauf quelques petites exceptions avec le mot « tout » quand il est adverbe. Dans la classe des mots variables, on a les noms communs, qui s'opposent aux noms propres, les déterminants, les verbes, les adjectifs, les pronoms. Dans la classe des mots invariables, on a les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Alors, comment reconnaître ces différentes classes de mots? Commençons par les mots variables. Le nom commun. Un nom désigne une personne, un animal, une chose, un lieu, un sentiment ou un concept. Il est très souvent précédé d'un déterminant, un, une, le, la, les, etc. La façon la plus facile de savoir si un mot est un nom commun est de mettre devant un déterminant et de voir si ça veut dire quelque chose. Chat est un nom, car il peut être précédé du déterminant le chat. Courir n'est pas un nom, car on ne peut pas dire « le courir » ou « la courir ». Le déterminant, c'est le compagnon du nom, comme l'adjectif d'ailleurs. Il détermine le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, de ce nom. Alors on connaît les plus célèbres « un »,« une »,« des »,« le »,« la », »,« les ». Mais il y en a bien d'autres. On a les déterminants possessifs, par exemple mon chien. Les déterminants démonstratifs, par exemple cette maison. Les déterminants exclamatifs, par exemple quelle chance. Les déterminants interrogatifs, quelle robe vas-tu mettre aujourd'hui ? On a aussi les déterminants numéros, par exemple deux enfants sortent de la maison. Et enfin les déterminants partitifs, par exemple du, je veux du pain. Alors comment savoir si un mot est un déterminant? C'est assez simple. Il suffit de le remplacer par un autre déterminant que l'on connaît. Prenons par exemple la phrase « Il y a quelques arbres dans mon jardin ». On pourrait dire « il y a des arbres dans le jardin. On a remplacé quelques par des et on a remplacé mon par le, qui sont eux-mêmes des déterminants connus. Donc, on en déduit que quelques et mon sont eux aussi des déterminants. Ce principe de substitution, qui est le fait de remplacer un mot ou un groupe de mots dans une phrase par un autre mot ou groupe de mots dont on connaît l'identité grammaticale, est une façon assez sûre de trouver la nature ou la fonction de ces mots. L'autre compagnon du nom, c'est l'adjectif. C'est un mot qui sert à donner une précision sur le nom. Il le qualifie. On parle d'adjectif qualificatif. Par exemple, petite, la petite table. Grand, les grands enfants. Vieille, les vieilles personnes. Les adjectifs s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom. Et l'une des principales sources d'erreurs en orthographe est d'oublier d'accorder dans le groupe nominal le nom et l'adjectif. Passons maintenant au verbe. C'est un mot qui exprime une action, manger, un état, être, un sentiment, adorer, une transformation, devenir. Dans le dictionnaire, on le trouve à l'infinitif. Et bien entendu, il se conjugue dans une phrase s'accordant en genre et en nombre avec son sujet. Il peut se conjuguer à des temps simples, il s'écrit alors avec un seul mot, ou à des temps composés, il se conjugue alors avec l'aide de l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé du verbe. Par exemple, le passé composé. J'ai mangé, je suis parti. Quand il est conjugué, le verbe est le noyau de la phrase. Il a un sujet et tout tourne autour de lui. Mais on trouve aussi des verbes à l'infinitif qui ne sont pas conjugués et qui peuvent être sujet d'une phrase. Par exemple, fumer est mauvais pour la santé. Ici, le verbe fumer est à l'infinitif, il n'est pas conjugué et il est sujet de la phrase. Pour trouver le verbe conjugué dans une phrase, il suffit de changer le temps de la phrase, car le verbe est le mot, ou le groupe de mots s'il est à un temps composé, qui change quand le temps de la phrase change. Par exemple, prenons la phrase « Il est parti à la mer ». Mettons-la au futur. Il partira à la mer. Dans cet exemple, partira remplace est parti, qui est donc le verbe conjugué. Ici, c'est le verbe partir au passé composé. On voit que, là aussi, on peut utiliser le principe de remplacement pour trouver l'identité grammaticale d'un mot ou groupe de mots. Alors, il y a trois groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, ce sont tous ceux dont l'infinitif finit par « er », sauf le verbe « aller ». Les verbes du second groupe, ce sont tous ceux dont l'infinitif finit par « ir » et qui font « issons » avec nous au présent de l'indicatif. Par exemple, « finir » nous finissons. Et les verbes du troisième groupe, ce sont tous les autres. Il y a notamment l'auxiliaire « avoir », l'auxiliaire « être », le verbe « aller » et donc aussi tous ceux qui ne sont ni dans le premier ni dans le second groupe. Les conjugaisons des verbes du premier et du second groupe sont assez simples et régulières. C'est beaucoup plus le bazar avec la conjugaison des verbes du troisième groupe car il y a beaucoup de formes différentes. Parlons maintenant du pronom. On a vu que les déterminants et les adjectifs étaient les compagnons du nom. Le pronom, lui, est ce mot, parfois composé, par exemple celui-ci, qui est employé à la place du nom, d'où son préfixe « pro » qui veut dire « à la place de ». L'usage des pronoms dans une phrase ou un texte permet de désigner des personnes, des animaux ou des sentiments sans les appeler par leur nom, ou d'éviter les répétitions d'un même groupe nominal ou d'un même nom. Par exemple, « des enfants jouent, point, je les vois ». Les, ici, n'est pas indéterminant. Il remplace le groupe nominal des enfants, donc c'est un pronom. Il y a toutes sortes de pronoms. Les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, ils, me, te, ce, etc. Les pronoms démonstratifs. Par exemple, il y a plusieurs pantalons, prenez celui que vous voulez. Celui est pronom démonstratif. On a les pronoms interrogatifs. Qui est venu ? Qui est pronom interrogatif ? On a les possessifs. Mon fils s'appelle Victor. Et le vôtre ? Le vôtre est pronom possessif. On a les pronoms relatifs. Par exemple, la fille qui passe dans la rue est très jolie. Qui est pronom relatif. On a aussi les pronoms indéfinis. Bonjour à tous. Tous est pronom indéfini. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de types de pronoms. Alors, il faut faire bien attention, comme on l'a dit, de ne pas confondre certains pronoms personnels avec des déterminants. Par exemple, le chat dort, le est déterminant dans cette phrase. Mais si je dis « je le vois », le est pronom, il est mis à la place d'un nom. Cette confusion parfois entre les pronoms personnels et les déterminants est source fréquente d'erreurs en orthographe, notamment chez les enfants. Ainsi, dans une phrase comme « je les mange » ou « les » représente par exemple des bonbons, certains enfants écriront « mange » avec un « s » à la fin car ils se réfèrent à l'écriture qu'ils voient souvent où « les » est un déterminant suivi d'un nom au pluriel, donc on met un « s ». Beaucoup d'élèves du collège connaissent les règles et pourtant continuent à faire des erreurs car ces règles, ils ne les ont pas comprises et donc ne les ont pas intériorisées. Il faut observer les textes, classer, comparer des mots, échanger ses raisonnements avec d'autres élèves, des raisonnements presque mathématiques d'ailleurs, puis valider et réinvestir. Bref, on est loin du simple par cœur. Alors, les mots invariables maintenant. Dans les mots invariables, on a les adverbes. Un adverbe est un mot ou un groupe de mots dans le cas d'une locution adverbiale qui sert à donner des précisions sur un verbe, marcher lentement, des précisions sur un adjectif, trop petit, des précisions sur un autre adverbe, trop rapidement, ou des précisions sur une phrase entière. Évidemment, il ne se presse pas. De temps en temps, je prends des places de concert. Alors ici, de temps en temps est locution adverbiale, car elle est formée de plusieurs mots. Il ne faut pas confondre un adverbe et un adjectif, car certains mots peuvent être l'un ou l'autre selon le contexte. Ainsi, dans la phrase « l'aigle vole haut », « haut » est adverbe, car on pourrait le remplacer par un autre adverbe. On pourrait dire « l'aigle vole lentement ». Alors que dans la phrase « les arbres sont hauts », « haut » est adjectif, car on pourrait le remplacer par un autre adjectif. On pourrait dire « les arbres sont grands ». Donc, en tant qu'adjectif, ici, il s'accorde avec le groupe nominal « les arbres » et prend un « s ». Passons aux prépositions. Ce sont des mots qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Il existe des prépositions simples, à, avec accent, chez, sur, sous, dans, etc. Et des locutions prépositionnelles, par exemple, près de, au-dessus de. Je suis allée à Paris. À est préposition. On met un accent. Hein. Le chien dort dans son panier. Dans est une préposition. Nous habitons près de Toulouse. Près de est locution prépositionnelle. Alors on a ensuite les conjonctions de coordination. Ça c'est facile. Vous vous souvenez sûrement de cette phrase mnémotechnique « Mais où est donc Ornicard ?» Cette phrase magique nous a tous permis de retenir ces conjonctions de coordination. Il y en a donc 7, mais, M-A-I-S, ou, O-U, sans accent, et, E-T, donc, or, O-R, ni, et car, C-A-R. Ces conjonctions servent à relier des mots, des groupes de mots ou des propositions. Les conjonctions de subordination. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. La conjonction de subordination est un mot invariable qui sert à relier dans une phrase une proposition principale et une proposition subordonnée. Bon, c'est pas très clair, alors reprenons au début. Une phrase peut être simple ou complexe. Une phrase simple est une phrase où il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Par exemple, je vais au cinéma ce soir. Une phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Par exemple, je vais au concert et je rentrerai tard. Comme le verbe est le noyau d'une phrase, quand il y a plusieurs verbes conjugués, il y a plusieurs morceaux de phrases liés à ces noyaux qu'on appelle des propositions, à ne pas confondre avec les prépositions. Vous suivez toujours? Bon, continue. Une phrase complexe peut être composée de deux types de propositions. Soit des propositions indépendantes, soit d'un combiné proposition principale plus subordonnée. Prenons un exemple. Les oiseaux volent et le ciel est bleu. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions, et chacune est indépendante de l'autre, c'est-à-dire que chacune d'elles pourrait former une phrase cohérente. Première proposition, les oiseaux volent. Deuxième proposition, le ciel est bleu. Elles sont reliées par la conjonction de coordination et. Autre exemple. Je vois que tu n'es pas heureux. Ici, on a deux verbes conjugués, donc deux propositions. Je vois est la première, que tu n'es pas heureux est la deuxième. Mais elles ne sont pas indépendantes. En effet, si le groupe « je vois » peut, à la rigueur, être cohérent tout seul, le groupe « que tu n'es pas heureux » ne voudrait rien dire tout seul. Il dépend de la principale dont il complète le sens. Il est subordonné à elle. Je vois est la proposition principale. Que tu n'es pas heureux est la proposition subordonnée, introduite par la conjonction de subordination que. Alors on a toutes sortes de propositions subordonnées et donc toutes sortes de conjonctions de subordination. Ce sont des notions compliquées, ces histoires de principales et subordonnées, et il est tout à fait normal que les enfants, les adolescents ou même les adultes aient du mal à les maîtriser. On va parler enfin des interjections. Boum, ah, oh, chut, hélas, coucou, merde. Une interjection, c'est un petit mot invariable qui traduit un sentiment, une émotion, un ordre ou qui imite un bruit. Dans ce cas-là, on appelle ça une onomatopée. L'interjection est en général dans une phrase suivie d'un point d'exclamation. C'est un petit mot facile à retrouver et qui est très présent dans les bandes dessinées notamment. Alors pour finir, il faut noter qu'il existe des mots qui ont plusieurs natures, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de classe grammaticale selon le contexte de la phrase. On l'a vu un peu plus haut déjà. Par exemple, le mot « rouge ». Si je dis « le rouge est une couleur que j'adore », là, « rouge » est un nom puisqu'il est précédé d'un déterminant. Mais si je dis « c'est un pull rouge », là, « rouge » est adjectif. Si on prend un autre exemple, le mot « fort ». Un homme fort. Fort est adjectif. Mais si je dis « parler fort », fort est adverbe. Donc, il faut savoir que certains mots peuvent appartenir à plusieurs classes grammaticales selon le contexte de la phrase. Voilà les amis, on a essayé de faire le tour de ces différentes classes grammaticales. J'espère que cet épisode vous a été utile et agréable. Certes, c'est un sujet un peu ardu, mais pour maîtriser la règle des accords dans une phrase, il faut savoir identifier les classes au moins les plus importantes, comme le nom, l'adjectif, le verbe, le déterminant, le pronom. Dans l'épisode suivant, on abordera la notion de fonction des mots ou des groupes de mots dans la phrase. Je vous donne donc rendez-vous à peu près dans un mois pour la suite de notre aventure au pays de l'orthographe. Et vous souhaite en attendant de belles journées et de belles soirées à venir.